Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la myasthénie auto-immune ou myasthénia gravis. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Sophie Demeret. Docteur Demeret, bonjour.
Bonjour.
Docteur Demeret, vous êtes neurologue et praticien hospitalier au sein du service de réanimation neurologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors, pour débuter notre entretien, docteur Demeret, quelles sont les différentes régions neuronales qui sont atteintes par la maladie ?
La myasthénie est une maladie qui se situe au niveau de la jonction neuromusculaire, donc la transmission entre le nerf et le muscle qui va passer par le récepteur à l'acétylcholine. C'est une maladie auto-immune où il y a une sécrétion d'anticorps, principalement des anticorps dirigés justement contre ce récepteur ou d'autres anticorps dirigés contre des protéines associées au récepteur. Et ces anticorps et la réaction immunologique générés par ceux-ci vont être responsables d'une altération de la transmission neuromusculaire.
Et quelle est la traduction symptomatologique de ces atteintes ? Quels sont les principaux symptômes observés chez les patients touchés ?
Alors, du fait de cette localisation de l'atteinte à la jonction neuromusculaire, c'est une maladie qui va ne s'exprimer que par des atteintes motrices, un déficit moteur et surtout une fatigabilité motrice qui va toucher un certain nombre de groupes musculaires particuliers. Le groupe musculaire le plus fréquemment atteint est le groupe oculomoteur, avec très classiquement un ptosis, une chute de la paupière, ou une diplopie binoculaire, qui va donc disparaître à l'occlusion d'un œil, en relation avec une atteinte des muscles oculomoteurs. Cette atteinte oculaire, elle est présente chez un grand nombre de patients, et pour 15% de ces patients, elle va rester oculaire pure. Chez les 85% de patients, l'atteinte motrice va dépasser la région oculomotrice avec une atteinte possible des membres supérieurs et inférieurs, qui va donc s'exprimer soit par un déficit, mais beaucoup plus fréquemment par une fatigabilité motrice, donc l'impossibilité de maintenir l'effort sur la durée. Une atteinte des muscles de l'axe, une chute de la tête qui se manifeste souvent par des cervicalgies importantes. Et c'est cette seule atteinte-là qui va être responsable de douleurs. Classiquement, dans la myasthénie, c'est une maladie indolore. Il va y avoir une atteinte axiale qui peut s'exprimer par une difficulté à s'asseoir dans le lit sans l'aide des mains et une atteinte des muscles d'innervation bulbaire qui va se manifester par des difficultés de la mastication, une fatigabilité de la mastication, des difficultés de la déglutition avec un blocage ou des fausses routes, des difficultés en termes de parole, soit avec la classique voix nasonnée qui apparaît au cours du langage, soit avec une dysarthrie liée à l'atteinte de la langue ou des lèvres. La gravité de cette maladie, elle est liée à deux types d'atteintes. Cette atteinte bulbaire, si elle est importante et qu'elle empêche les patients de manger, voire de respirer, par une atteinte des muscles dilatateurs des voies respiratoires, soit par une atteinte diaphragmatique qui va donner une atteinte respiratoire en elle-même.
Et quelle est l'évolution de la maladie ?
Alors, la myasthénie, elle est particulière, on va dire, par le fait que on dit qu'elle est la plus grave dans les premières années de traitement. Contrairement à beaucoup d'autres maladies, on dit que ce sont les trois premières années les plus difficiles pour les patients. Probablement, bien sûr, parce que le diagnostic est fait et le traitement est mis en place. Donc, c'est une des choses majeures dans cette maladie. On peut d'emblée rassurer les malades en leur disant que, avec la mise en route du traitement, les choses vont aller mieux de manière certaine pour au moins 90% d'entre eux. 10% des malades vont rester difficiles à traiter malgré tous les traitements qu'on a. La mise en route de ces traitements, elle est cependant longue. On va avoir plusieurs paliers de traitement souvent, il est nécessaire d'arriver au palier 2 ou au palier 3 pour avoir une rémission correcte de la maladie. Le premier palier de traitement est un traitement symptomatique qui sont des antinestérasiques qui vont permettre de booster, on va dire, la transmission neuromusculaire en augmentant la quantité d'acétylcholine dans la fente synaptique. Puis ensuite, il va falloir passer à des médicaments immunomodulateurs ou immunosuppresseurs. Il y a deux traitements qui agissent rapidement, qui sont les immunoglobulines intraveineuses ou les plasmaférèses, qui vont permettre de passer un cap chez des patients sévères qui risqueraient d'avoir une crise myasthénique, c'est-à-dire une poussée suffisamment grave pour les emmener en réanimation et nécessiter une ventilation mécanique. Donc, ces traitements sont des traitements de l'urgence. Ils vont agir vite, mais pas longtemps. Et donc, il va falloir traiter par des traitements de fond qui vont associer des corticoïdes, la plupart du temps associés à un immunosuppresseur. Il y a beaucoup de types d'immunosuppresseurs maintenant présents, avec des immunosuppresseurs qui peuvent se donner par voie orale, quotidiennement, ou par voie intraveineuse, à un rythme qui va dépendre du traitement que l'on choisit.
Et quel est l'impact de cette maladie, myasthénia gravis, pour les patients ?
Alors, l'impact, il est évidemment une invalidité compte tenu d'une réduction importante de l'activité physique. C'est des patients qui vont avoir une perte d'endurance, qui vont avoir un retentissement sur leur marche, ils ont une atteinte des membres inférieurs, sur la gestion de leur vie quotidienne, la gestion de l'entretien personnel quand ils ont une atteinte des membres supérieurs, l'alimentation. Dès qu'ils ont des troubles bulbaires, de la mastication et de la déglutition, dès qu'ils ont une atteinte respiratoire, bien sûr, ça va engendrer une gêne dans toute leur activité physique. Donc, et puis, j'oublie bien sûr quelque chose de très important, qui est le trouble visuel, qui peut être, certes, pas grave, mais extrêmement invalidant pour les patients. Et donc, tous ces symptômes vont avoir des conséquences en fonction de la sévérité des troubles, et ils vont avoir une répercussion dans leur vie personnelle, familiale et bien entendu professionnelle. Pour les malades les plus sévères, ça va justifier une prise en charge rapide pour éviter une aggravation sévère de la maladie, mais pour essayer le plus vite possible de leur redonner un fonctionnement normal dans leur vie quotidienne. Grâce au traitement, la plupart des malades peuvent reprendre une vie quasi normale. Quasi parce que, premièrement, cette vie va être sous traitement, avec une surveillance médicale régulière. Deuxièmement, il y a quand même, au sein de la maladie, une importance capitale de l'adaptation du rythme de vie des patients. Il va falloir qu'ils gèrent leur activité avec des périodes de repos, s'il reste certains symptômes, ce qui est quand même le plus fréquent.
Et pour conclure notre entretien, docteur Demeret, quels sont les différents scores de gravité qui existent dans cette maladie ?
Alors, les scores de gravité sont très complexes dans la myasthénie parce que, par définition, c'est une maladie fluctuante. C'est une maladie fluctuante dans la journée, en fonction de l'activité physique. Et une des caractéristiques de la maladie, c'est que les symptômes apparaissent et s'aggravent au fil de la journée. Mais c'est aussi une maladie qui va fluctuer d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, et en fonction de différents facteurs, éventuellement d'aggravation. On connaît un grand nombre de facteurs d'aggravation. Il y a des médicaments contre-indiqués qui peuvent aggraver les symptômes. Il y a les infections virales ou bactériennes qui peuvent engendrer une exacerbation des symptômes, une chirurgie, un stress ou parfois des poussées sans qu'on identifie de facteur déclenchant. Et donc, les scores de gravité sont très compliqués du fait de cette fluctuation. Si vous voyez un patient à un temps A ou un temps B, les scores vont varier de manière importante. On va donc combiner deux types de scores. Un score qui va être une photographie du patient, et donc on va dire des scores objectifs, où vous allez mesurer l'endurance des muscles ou la force des muscles. Mais cette photo, elle ne vous montre qu'un point ponctuel de la pathologie, mais peut-être que le patient, la veille, l'avant-veille, était mieux ou pire. Et donc, il faut associer absolument à ce score un score qu'on appelle le score d'activité quotidienne, où les patients vont nous rapporter, dans les 7 jours qui précèdent la consultation, les symptômes qui vont fluctuer en fonction des moments de la journée. Et donc, c'est grâce à la combinaison de ces deux scores qu'on va essayer de donner l'image et la gravité de la maladie. Par ailleurs, il y a un score qui est le score MGFA, qui va permettre de classer les patients en fonction de leur sévérité. Ce score est en 5 points. Le score MGFA 1 correspond à un patient qui a une myasthénie oculaire pure. Le 5 correspond à un patient qui a une atteinte respiratoire qui nécessite une ventilation mécanique en réanimation. Et 2, 3, 4 sont les scores qui vont aller d'une atteinte minime, modérée ou sévère. Et au sein de chacun de ces scores, 2, 3, 4, 5, on va les classer en scores 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, etc. en fonction de la prédominance de l'atteinte, soit une prédominance sur les membres, ça va être la catégorie A, ce qui est invalidant, mais qui n'entraîne pas de risque vital, de risque respiratoire, soit une prédominance sur les muscles bulbaires ou respiratoires, ce qui va classer les patients en B. Voilà, donc grâce à ces trois types d'évaluation, il y a d'autres scores également qui sont utilisés dans les essais thérapeutiques. Et la combinaison de tous ces scores, on va essayer de donner la meilleure image, on va dire, de la sévérité des patients.
Eh bien, merci mille fois, docteur Demeret, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la myasthénie auto-immune ou myasthénia gravis. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite !